Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Au bord des corps.
Salut.
Salut.
Donc là, t'es ici pour parler de la MAMEC.
Ouais.
Donc MAMEC pour mastectomie ou MAMECtomie.
Mm-hmm.
Est-ce que tu veux expliquer dans quel contexte déjà, enfin, tu fais ça? Parce que du coup, il y a plusieurs raisons de faire des MAMECtomies dans la vie, mais genre...
Ouais, bah moi du coup j'ai, bon, pour me présenter, du coup je m'appelle Elio, je suis une personne trans et du coup j'ai, comment on peut dire, j'ai pas réalisé moi-même cette mastectomie, mais je l'ai, enfin, on m'a fait une mastectomie dans le cadre de mon parcours trans justement, donc qui vise à recréer entre guillemets par le biais de la chirurgie un torse plat,
okay.
Comme pour en avoir des mecs cis. Ça vise ce visuel-là, quoi.
Oui, c'est aussi, on peut aussi parler de torsoplastie. Hein.
Ouais, il y a mastectomie, mamectomie, torsoplastie.
C'est la même chose.
Ouais, enfin, peut-être qu'il y a des différences, mais moi, c'est des termes que je vois tourner. Voilà.
Ok. Et à quel moment, du coup, est-ce que c'est depuis le début de la transition où ça te semblait, genre, nécessaire, important et tout pour toi, ou c'est une progression
Alors au début ça m'a pas du tout semblé nécessaire, je pense que pendant très longtemps, du coup au moins 2 ans c'est sûr, voire 3, j'envisageais absolument pas de faire une MAMEC, je pensais que j'allais juste jamais en faire de ma vie, c'est pas venu progressivement non plus, ça m'est tombé sur la gueule en janvier dernier du coup,
mm-hmm.
Donc il y a un an. Un peu par hasard au croisement de plusieurs choses qui se sont passées, c'était un mélange de, à la fois je me suis retrouvée à essayer de m'imaginer plus tard parce que je voulais tout simplement me faire tatouer un torse et qui serait le mien, et je me suis retrouvée face au fait de absolument pas m'imaginer un torse autrement que post-mamectomie, alors que j'étais encore dans une époque où je pensais ne pas du tout le vouloir, donc assez contradictoire au premier abord, et en même temps juste la force des représentations en fait, parce que j'ai juste vu une personne post-mamec dans mon entourage et ça m'a fait un déclic de ok, c'est ça que je veux pour moi, quoi. Donc un gros déclic au mélange de, enfin ouais, au croisement de plein de choses qui sont passées, ouais.
Ok. Et tu savais du coup directement quel type de mastectomie tu voulais? Parce qu'il en existe. Est-ce qu'il en existe deux, c'est ça, principalement?
Alors, principalement deux, je crois qu'il existe d'autres variations encore de à quoi peuvent ressembler les cicatrices, s'il y en a, tout ça. Enfin, ouais, il existe un peu plus que deux, mais généralement, ce qu'on voit, c'est soit la double incision, qui est donc une opération qui laisse des longues cicatrices en dessous des pecs, en gros. Soit. La
périaérolaire,
qui du coup laisse des cicatrices mais juste autour des tétons et qui du coup, comme les tétons sont colorés, ne se voit quasiment pas en fait. Et moi, ouais, j'ai un peu su dès le départ que je voulais des cicatrices. Je voulais pas du tout ne rien avoir. Je pense que je voulais une marque. D'un truc qui s'était passé. En plus, j'avais pas du tout un rapport compliqué à ma poitrine, donc ça me dérangeait pas du tout d'avoir un truc qui me faisait me souvenir que, qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai eu des seins.
Mmh.
Et en plus de ça, étant une personne non hormonée, je me voyais pas trop avoir un torse sans ces marques-là. Enfin, j'aurais apparenté ça à un torse très... enfantin entre guillemets, parce que du coup j'aurais été tout plat, tout fin, donc esthétiquement c'est pas un truc vers lequel j'allais, de pas du tout avoir de marque de ça.
Ok, du coup c'est parti sur la double incision,
c'est ça? Ouais, du coup sur la double incision, ouais.
Ok. T'avais des peurs en particulier ou avant de te lancer dans tes recherches et tout, des a priori, des choses
Je sais pas si quand je me suis lancée dans mes recherches, j'avais peur. Je pense que pas tellement, parce qu'en plus j'étais au début, donc je pouvais à la fois rencontrer des chires sans que ça me pousse obligatoirement à l'opération. J'étais un peu en mode découverte, et puis souvent j'ai des pulsions de choses que je veux faire dans ma vie, et j'étais vraiment là-dedans. Moi j'en ai pris conscience, et du coup j'étais... Enfin, je suis direct partie dans une grande recherche de quel chien rencontrer. Je voulais que ça se passe rapidement et tout. Donc, au premier abord, je crois pas que... Et en même temps, je te dis ça maintenant. Oh, si, j'ai dû bien hésiter quand même, tu vois. Mais ce qui freinait... Enfin, j'ai dû avoir des hésitations et des peurs de faire un truc que j'allais regretter. Surtout vu que j'étais dans un moment de pulsion. Mais ça n'a jamais freiné mes recherches et tout ce que j'ai dû faire pour arriver jusqu'à la même école, quoi.
Du coup, ouais, ces recherches, hein, ça, t'as commencé par quoi, par quel bout,
J'ai commencé par juste chercher un chir, donc à éplucher des avis sur des retours de personnes qui se sont fait opérer et du coup, essayer de trouver par le biais du réseau trans des noms de chir qui pouvaient me correspondre. Et comme ça reste de la chirurgie esthétique, aussi des noms de chir qui faisaient des opérations qui visuellement me convenaient, qui convenaient à ce que je voulais voir sur moi, quoi. Donc j'ai commencé par ça, et ça a été c'est assez intense comme recherche, parce que c'est difficile d'avoir ces informations quand on sait pas trop à qui demander et tout. C'est vraiment des recherches. En plus, du coup, j'étais pas hormonée. Donc, ça limitait beaucoup mes possibilités, parce qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui acceptent pas d'opérer les personnes qui sont pas sous testostérone. Du coup, ouais, c'était un peu essayer de trouver en fonction de tous mes critères, à la fois du prix, à la fois du fait que j'étais pas hormonée, à la fois de ma situation géographique, parce que je pouvais pas aller n'importe où en France, même si au final je suis quand même allée loin. Voilà, j'ai essayé d'éplucher tout ça et de trouver.
Et par rapport à ça, le fait que... Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être se prennent un peu par crainte qu'on leur dise pourquoi, si vous êtes pas hormoné et tout, mais genre c'est pas un prérequis légal, du coup c'est...
Je sais pas, honnêtement je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de zones floues, ouais, dans toutes ces choses autour des mamecs, de ce que les chirurgiens demandent ou demandent pas, ce qui serait légal ou pas légal. Dans les faits, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas illégal. On m'a pas du tout fait une mamec qui est illégale, c'est sûr. Mais du coup, j'avoue que par contre, j'ai aucune idée de pourquoi il y a des chirurgiens qui sont clairs et nets avec le fait qu'ils ne veulent pas opérer des personnes qui sont pas sous testo.
Je crois me souvenir, en ayant un peu cherché et aussi en ayant posé la question quand je t'avais accompagnée au rendez-vous, que la personne qui t'a opéré disait... qu'en gros, c'est... de toute façon, sur la plupart des trucs médicaux, les praticiens sont censés décider eux-mêmes quel type d'opération, mais c'est toujours en fait peur qu'on se retourne contre elle, et du coup par vision que en fait avec toujours la peur du médiatisée de la détransition, etc., qui n'est pas du tout avérée ou quoi, ou en tout cas pas pour ces raisons-là, qui ont peur que du coup ça se retourne également contre elle et qu'on leur fasse des procès, et peur de devoir se défendre par rapport à ça, ou peur aussi, je crois qu'il y a aussi le bail de si après ça retransforme l'opération d'avoir pris certaines hormones, et de se dire que du coup on va leur reprocher leur travail. Enfin, du coup, c'est des principes de précaution à deux balles, comme pour se protéger, je crois, entre...
Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'elle nous avait dit, ouais.
Mais bon, ouais. Ok, du coup, on a quand même qui font...
Ouais, il y en a plusieurs, je sais pas, j'ai pas tout repéré. J'avoue que moi, la chire par laquelle je suis passée, c'est la première, vraiment une des premières que j'ai repérées, parce que esthétiquement, c'était exactement ce que je voulais. Et du coup, je me suis arrêtée à ça. J'ai quand même noté le nom d'un autre chirurgien qui est assez connu, en me disant que ben, je me laisserais au moins la possibilité d'en rencontrer deux pour voir le contact et tout. Mais vraiment, la première que j'ai vue, c'était ça que je voulais. Donc en fait, c'est au final la seule que j'ai rencontrée. À partir du moment où elle m'a dit qu'elle était OK pour m'opérer, ben, c'est tout ce que j'ai fait, quoi.
OK. Oui, et pour toi, ça n'avait pas une importance particulière de te faire opérer par des chires esthétiques plutôt que des chires, on va dire, de spécialité. Il y a les deux, en fait, qui font ça.
Mais je ne savais pas.
Ah, OK.
Non, là, cette question. Non, pas un simple, là, je ne savais absolument pas.
D'accord. OK.
Bon, bah, du coup, non. Du coup, ça ne m'est pas passé par les souris.
Très bien. Et du coup, voilà. Donc, après, donc, tu as trouvé donc, une chire qui t'allait bien.
Mm-hmm.
Et après, du coup, ça se passe comment concrètement, genre,
et ben du coup,
t'as eu un rendez-vous.
C'est ça, j'ai eu un premier rendez-vous pour la rencontrer et pour qu'elle voit quel type d'opération elle pouvait faire, si tout simplement elle acceptait de m'opérer ou pas.
Ça, c'était en visio, le premier ?
Non, c'est quand on y allait okay. ensemble.
Tu l'avais pas du tout...
Je l'avais jamais vu avant. Et voilà, c'est vraiment les informations de base. Hein. Et après ça, je réfléchis. Après ça, bon, elle m'a laissé le temps de réfléchir à si c'était quelque chose que je voulais faire et donc de la rappeler par la suite. Ce que j'ai fait du coup. Et
t'as pas laissé de délai.
Je pouvais rappeler quand je voulais. Mmh. Ouais, c'est moi qui l'ai fait rapidement, mais je vraiment c'est vraiment quand je voulais. Et du coup après à partir du moment où j'ai dit que c'était OK et que j'allais me faire opérer, s'en est suivi des démarches administratives essentielles pour que cette opération ait lieu. Une attestation d'une psychiatre.
C'était pas nécessaire avant le premier rendez-vous?
Non. Okay. Bon, non, je pense pas. Enfin, j'arrive pas à me souvenir exactement quand je l'ai fait, mais je me dis, dans la mesure où le premier rendez-vous ne confirme rien, je vois pas pourquoi elle me l'aurait demandé. Une attestation d'un ou une psychiatre et après plein de choses médicales à faire, une mammographie, des analyses de sang et plein de petites choses à acheter pour le post-op, donc plein de pansements, un gilet compressif pour après l'opération, pour comprimer le torse pour que ça cicatrise bien. L'anesthésiste à appeler, avec qui prendre rendez-vous aussi. Enfin, vraiment, l'entre-deux, c'est énormément de choses administratives à faire. Et avant l'opération, un deuxième rendez-vous avec la chirurgienne. Et donc pour finir de discuter de tout ce qui va se passer, mettre au point tout ce qui doit être mis au point, poser les dernières questions, et après opération.
Ok. Du coup, les analyses et tout de sang et tout, c'est sur ordonnance que te donne.
Ouais, la chire.
La chire.
Okay. Ouais.
Et l'ordonnance de la psychiatre, c'est un truc qui doit être assez conséquent et ça doit. Enfin, ça doit dire en gros. Qu'est-ce qui est attendu de cette ordonnance, c'est que ça te dise que c'est pour mettre en concurrence avec ton genre, des trucs comme ça, ou c'est genre...
Concrètement, je sais pas à quoi c'est censé ressembler, mais la mienne, c'était juste une phrase en mode « cette personne peut avoir recours à une mastectomie ». Je crois vraiment que c'était juste une phrase.
Okay.
Genre juste un avis psychiatrique sur si je peux...
Oui, si t'étais pas en train de faire une folie comme
c'est
ça.
Exactement.
C'est quand même révélateur parce que en un sens, on a un peu des psychiatres genre les parcours de transition à moitié et en même temps genre on demande encore des trucs qu'on demande pas pour d'autres types d'opérations, donc c'est encore considéré comme et donc tout ça tu l'as payé de ta poche?
J'ai vraiment tout ce qui est lié à la mamec, j'ai du mal à comprendre de ce qui m'était remboursé ou pas remboursé, ce à quoi je pouvais avoir droit ou pas par ma mutuelle ou pas, ou par ALD ou pas. Enfin, Il y a...
T'avais la LD.
J'ai pas la LD. J'ai pas demandé la LD. Ce que je sais, c'est que j'ai payé des dépassements d'honoraires. De ma poche et qui ne m'ont pas été remboursés par la suite par la mutuelle. Donc.
Ok. Donc, il y a à voir avec ces mutuelles et tout. Mais, c'est...
mais je pense que comme ça relève du dépassement d'honoraires, en fait, réellement, je sais même pas si quelconque mutuelle peut rembourser sur ce qu'on appelle dépassement d'honoraires, tu vois.
Okay.
Je sais pas.
Et tu... Est-ce que tu sais si les personnes qui sont sous ALD ont d'autres remboursements, du coup, normalement ou...
Ben, honnêtement, c'est quelque chose que je comprends beaucoup trop peu pour donner des infos là-dessus.
Je vous mets en lien un article de Genre qui explique un peu plus les remboursements, les histoires d'ALD, de Sécu et de mutuelle. En gros, effectivement, l'ALD est censée permettre de couvrir à 100% les frais. Parfois, c'est mieux de spécifier la mastectomie au moment de la demande, enfin en tout cas, ou de la faire inscrire dans l'ALD. Les dépassements d'honoraires restent de toute façon à la charge des personnes faisant la demande. Et après, l'article reprécise qu'il y a bien des CPM qui, pour des remboursements, que ce soit sécurité sociale standard à 80% ou à 100% avec l'ALD, qui demandent encore, pour tout ce qui est lié aux transitions médicales, d'avoir une attestation psy de 2 ans, mais c'est bel et bien illégal et vous pouvez le préciser dans vos lettres. D'ailleurs, donc du coup, si suite à vos demandes, vous n'avez pas de réponse sous 15 jours, ça vaut normalement pour acceptation d'un point de vue légal de la part de la Sécurité sociale. Après, ça veut juste dire que vous n'avez pas forcément le papier en fait à montrer aux chirurgiens, chirurgiennes. Mais bref, cet article est assez complet, donc je vous le mets en lien.
Et du coup, le rendez-vous en tant que tel, comment ça s'est passé? Parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes qui doivent un peu avoir peur du rapport au médecin ou chirurgien.
Ouais.
Esthétique.
Ça s'est passé. J'y allais un peu. J'y allais préparer dans le sens où j'étais en lien avec une personne qui m'a beaucoup conseillé, beaucoup aidé, qui s'était déjà fait opérer par cette personne. Et avec qui vraiment j'ai beaucoup parlé et qui m'avait conseillé sur les questions à lui poser. Donc j'avais littéralement emmené ma petite liste de questions pour pas oublier ce que je voulais lui demander, ce que je voulais savoir. Voilà, donc j'y suis allée dans ce mood-là, de juste poser des questions et avoir les réponses à mes questions. Je réfléchis à ce que je veux dire de ce rendez-vous. Je sais pas si je vais en dire plus de choses que ça.
Ouais. Non, mais de toute façon, c'est ton expérience et ça veut pas dire que... de toute façon, ton rendez-vous, il sera différent de
rendez-vous
de chaque personne. Après, on sait que, genre, oui, de toute façon, les médecins et chirurgiens sont pas forcément les personnes les plus déconstruites sur la transidentité et la non-binarité. Et que du coup, il faut s'attendre à pouvoir avoir des phrases que... Enfin, voilà.
Ouais.
Mais s'il y a un truc, je sais pas... ça tombe un peu sous le sens, mais c'était bien de préciser genre que le chirurgien check quand même.
Ouais, oui, enfin pour savoir quel type d'opération la chirurgie peut faire, parce que c'est vraiment quelque chose en fonction de quel bonnet on a, la qualité de la peau et tout, forcément la chirurgie là où le chir regarde notre poitrine, en fait, pour voir quelle opération peut être envisagée. Donc, ça a eu lieu lors du premier rendez-vous. Après, chacun a un rapport différent aux rendez-vous médicaux. Moi, j'avoue que j'ai pas trop de difficultés à... j'ai eu l'impression, dans la manière dont c'était fait, c'était vraiment juste un truc médical. Ok, je regarde à quoi ça ressemble, je regarde ce que je peux te faire, je te propose ce que je peux faire. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout quelque chose qui, moi, m'a mis mal à l'aise. Et puis, dans la mesure où, de toute façon, elle m'enlevait ma poitrine, je me doutais bien qu'un jour, elle allait venir pour la voir. Donc, oui, mais par contre... Ouais.
Mais c'est intéressant de savoir que même aussi, c'est pas le rendez-vous, genre, juste avant, c'est genre un premier truc, ça peut être quelque chose de demandé.
Ouais.
Et après, toi, t'avais le droit d'être accompagnée aussi, ça peut rassurer. Après, je sais pas si ce sera le cas de tout. Enfin, si tu les chires, c'est pareil.
Je sais pas du tout. Ouais, moi, du coup, j'y suis allée accompagnée de toi. Et en vrai, c'était une... Bah, déjà, c'est hyper rassurant d'y aller accompagnée d'une personne. En plus, je me suis dit que... Enfin, genre, si j'y suis allée avec toi, c'est aussi parce que je sais que t'es une personne... Genre, je savais que t'allais avoir l'esprit plus posé que moi dans ce moment où c'était forcément... Enfin, il se passait pour moi beaucoup de choses, que t'allais potentiellement poser des questions auxquelles j'allais pas penser ou retenir des choses qui, moi, allaient me sortir de l'esprit parce que, ben, encore une fois, c'est beaucoup, quoi. Donc, ouais, en tout cas, s'il y a la possibilité et que les personnes peuvent y aller avec une personne de confiance, enfin, moi, ça a été très cool.
Bah oui, je pense que ça devrait être pour beaucoup de rendez-vous dans, en général aussi le cas. Et du coup, bah, là, enfin, t'as un peu raconté, effectivement, donc après, t'es partie dans une grosse phase administrative et tout. T'as parlé des bails genre de trucs médicaux là, genre les compresses, enfin tous les trucs qu'il fallait pour le soin et tout. C'est un gros investissement financier ou...
Financier, tout ce qui est l'ordre de vraiment matériel médical, style pansement, tout ça, il y a énormément de choses qui sont remboursées. Vraiment. Enfin, vraiment les trois quarts, je pense que j'ai dû payer 20 balles à tout péter pour la quantité de choses qu'on m'avait prescrites. Le gilet compressif dont on a besoin, donc en fait, qui est littéralement un gilet qu'on se met sur la poitrine et qu'on garde pendant un mois après l'opération et qui aide à comprimer le torse pour bien qu'il cicatrise. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, n'est jamais remboursé. Et qui coûte, je l'ai payé 80€, je crois.
Ah ouais, quand même.
Ouais, ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher.
C'est une petite pépite de style.
Ouais, le truc bien relou. Ouais, ça coûte cher et je crois vraiment que sous aucun prétexte, même sous ALD, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé. La mammographie. Je crois que j'ai été remboursée une partie, mais je ne sais plus exactement. Tout ce qui est analyse de sang, j'ai été remboursée. Mon premier rendez-vous avec la chire, par contre, je ne crois pas que j'ai été remboursée de ça.
Ok.
Voilà.
Okay. Oui, et après, il faut aussi compter, genre, du coup, Airbnb,
billets. Ouais. Oui, ouais. Airbnb, après, ça, tout le monde ne choisit pas d'y passer du temps. Il y a aussi des chires qui font rester les personnes plus ou moins longtemps à l'hôpital. Je crois qu'il y a même des personnes qui restent 5 jours à l'hôpital. Moi, ce n'était pas mon cas. J'ai juste passé une nuit en clinique après l'opération et j'ai fait le choix de rester dans la ville de l'opération après pendant une semaine pour me reposer et pouvoir rentrer sereinement parce que c'est quand même quelque chose de très fatigant, enfin il faut récupérer et du coup il y a un coût du Airbnb qui est conséquent et du trajet et tout, donc ça en tout à prendre en compte c'est beaucoup, je pense que j'ai dû, enfin c'est certain que j'ai sorti plus de 3 000€ je pense.
Et bon, avant de passer genre sur post-opé et tout, dans toute cette phase entre le rendez-vous et toute cette phase de recherche, toi, t'es dans quel état à ce moment-là? T'as des anxiétés qui naissent ou t'étais plutôt excitée? T'arrives à te souvenir un peu genre qu'est-ce qui prédominait et est-ce que tu reparles avec d'autres personnes concernés pour avoir encore d'autres conseils, enfin, est-ce que tu as des nouvelles questions qui sont venues entre temps ou des choses comme ça?
Je pense que c'était vraiment un mélange des deux, de moments d'excitation et de moments où j'avais vraiment hâte et de moments où j'avais vraiment peur de faire une erreur. Vraiment c'était, enfin il y avait des deux en permanence. J'ai beaucoup parlé à des personnes qui étaient passées par la MAMEC, ce qui m'a beaucoup aidée à chaque fois. Genre vraiment, ça m'a toujours rassurée, rien que parce que ça me demandait de formuler à ces personnes pourquoi je le faisais, et du coup, ça me le rappelait pourquoi je faisais ça. Et puis j'avais quand même ce truc, même si j'ai eu des moments de gros stress, vraiment. Ben, je sais pas, je suis quand même un peu tout le temps restée dans ce truc de « Ok, j'ai confiance en moi, je sais qu'à un moment donné, si j'ai pas envie de faire ça, je l'arrêterai par un moyen ou un autre. » Surtout que dans le passé, j'avais déjà envisagé de prendre de la testo. Et j'étais allée jusqu'à avoir une attestation de psychiatre et tout. Enfin, j'avais vraiment plus qu'à prendre rendez-vous avec l'endoc. Et c'était quelque chose que j'avais arrêté. Donc je savais psychologiquement que si jamais j'en avais pas envie, j'étais capable de le faire puisque c'était déjà quelque chose qui était arrivé dans mon parcours de transition. Donc à la fois j'avais peur et à la fois je voyais que je continuais à faire toutes les choses administratives qu'il fallait faire sans me poser de questions. Et en ayant encore une fois toujours confiance en moi, en me disant, en plus, il y a tellement de choses à faire. Je me dis, si à un moment donné, j'ai plus envie, juste, il y a des trucs que je dois faire, des rendez-vous que je dois prendre qui vont passer à la trappe, et puis ça ne me mènera jamais à l'opération, et ça passera à la trappe comme ça, quoi. Et puis voilà, du coup, au final, j'ai juste continué sans jamais m'arrêter sur cette voie de l'opération. J'avais quand même des moments, encore une fois, vraiment de hâte. Et puis, il s'est passé 2 mois entre, du coup, le moment où j'ai dit « Ok, je vais me faire opérer » et l'opération. Et ces 2 mois, ils ont vraiment été bénéfiques pour juste moi-même me préparer à « Ok, ce que ça allait être, quoi. » Et à quoi je pouvais ressembler vraiment. Et je pense que les 2 dernières semaines, j'avais surtout très, très hâte. Vraiment. Et j'ai pris conscience que je le voulais vraiment aussi parce que du coup c'était période Covid. J'étais obligée de présenter un test PCR négatif pour me faire opérer. Et le déclic de j'ai jamais autant pris de disposition pendant 2 semaines contre le Covid. Et je me suis dit j'ai pris un déclic de il est hors de question qu'il y ait quoi que ce soit qui se mette sur le chemin de cette opération. Enfin, il est hors de question que j'ai un PCR négatif et que je puisse pas le faire, quoi. Du coup, je me suis dit, ok, je crois que j'ai vraiment envie de faire ça. Voilà.
Bon, au final, les peurs, c'était genre plutôt des peurs de genre parce que c'est des trucs corporels et que. Enfin, voilà, qu'on se.
Ouais, puis aussi un truc de, au final, ça a été rapide, parce que du coup, je pense qu'en 6 mois, j'ai eu le temps d'y penser et de le réaliser.
Donc c'est très rapide.
J'ai tracé. Vraiment. Ah non, mais vraiment. Et c'est hyper... ça va un peu à l'encontre de ce qu'on entend généralement des parcours de transition, qui sont des choses qui, où les personnes y pensent depuis très longtemps, des années limite et tout. Et moi, j'étais mais c'est bizarre. Ça fait que 6 mois. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment OK, la bonne décision? Turns out, oui, tout à fait. Mais voilà.
Ok. Et du coup, on en arrive. Donc, l'opération s'est bien passée.
C'est très bien passé, oui.
Ok. Et alors, est-ce que. Enfin. Ensuite, c'est comment? Genre, est-ce que t'as beaucoup douillé?
Non, j'ai pas. En vrai, j'ai pas eu tant mal que ça. Mais en plus, avec du recul, je me dis. Je pense que sur le moment, je réalisais. Bien sûr, je savais ce que j'étais en train de faire, mais je pense que je réalisais pas réellement l'importance de ce qui était en train de se passer, parce que c'est quand même pas rien. Ouais. Et je pense que j'étais juste en train de vivre mon truc. Et j'ai pas de souvenirs si douloureux que ça, genre vraiment. Bien sûr, le réveil d'une opération, c'est jamais agréable, ça a pas été agréable pour moi non plus, mais c'était pas la première fois que je me faisais opérer, franchement, ça, c'était pas très différent des choses que j'avais pu vivre jusqu'à présent. J'ai été super bien pris en charge à la clinique où j'ai été opérée. Et vraiment, ça compte beaucoup. Les personnes avaient été formées aux questions de transidentité. Et c'était... toutes les personnes m'ont apporté des soins ont été des cœurs, vraiment. Et du coup, c'était très rassurant. Enfin, j'étais dans un mood où je... j'étais pas au meilleur de ma forme dans cette clinique, mais je me sentais bien dans le sens où je me sentais en confiance avec les personnes qui étaient là. On checkait souvent comment j'allais, quand j'avais mal, on me filait des antidouleurs, et puis la routine, quoi. Du coup, voilà, non, je me rappelle pas avoir eu particulièrement mal. Bien sûr, ça fatigue vraiment. J'ai eu besoin de beaucoup de repos. On peut faire peu de choses après, genre vraiment très très peu de choses. Même ce qui est de l'effort physique, d'aller me balader, au tout début, me balader un quart d'heure, c'était le max que je pouvais faire, quoi.
La petite
balade. Vraiment. Ah, mais le tour du parc, quoi, c'est tout, hein. Mais dans un truc vraiment de physique, genre juste de monter une côte, ça m'essoufflait. C'était même pas dans un truc de ça me faisait mal, que ça m'essoufflait. Bon, après, forcément, ça reste des cicatrices, donc ça a dû me faire mal, mais franchement, c'est pas du tout ce que je retiens, en tout cas, là, maintenant, de ce que j'ai vécu. Voilà, juste énormément de repos, ouais, pendant une semaine, où j'ai passé beaucoup de temps à pas faire grand-chose d'autre que me reposer, ouais.
Je pensais à l'histoire que t'as... Je sais pas si t'as envie de raconter, ouais, mais je pense que ça m'avait... marqué, je trouvais ça chouette, l'histoire de l'infirmière qui avait parlé avec ta maman.
Oh oui.
Si tu veux partager, mais ça m'avait touchée.
Genre, ouais. Mais oui, mais par rapport au fait que les soignants de la clinique avaient été formés, en fait, je me suis fait opérer et... j'ai été accompagnée de ma maman dans cette opération. Et du coup, elle était là, on est allés ensemble dans la ville de l'opération, elle était là après tout ça. Et en fait, au moment de sortir de la clinique, forcément, les soignants m'enlèvent les drains que j'ai sur les cicatrices. Donc, je sais pas trop exactement ce que c'est, mais c'est des espèces de gros tubes qui passent dans les cicatrices, quoi. Ma mère était là à ce moment-là et je vois que ça va pas trop, ça allait bien moins que moi en tout cas. Ou non, je crois qu'on me changeait juste les pansements en plus, c'était juste ça. Bref, ma maman va pas bien, elle est dans la chambre, une infirmière lui parle, on sent bien qu'elle est en train de craquer et qu'elle est en train de pleurer. Et du coup, il y avait en tout trois infirmières, je crois, et il y en a une qui l'a pris à part et qui lui a dit « Venez si vous voulez, on va boire un café ensemble ». Et j'ai vu ma mère réapparaître, je sais pas, 15 minutes après au final, qui allait beaucoup mieux. Et en fait, l'infirmière et elle ont bu un café ensemble. Et l'infirmière a juste pris le temps de parler avec elle et de lui dire à quel point c'était bien qu'elle soit là et que c'était important et qu'elle voyait beaucoup de personnes se faire opérer en n'étant pas accompagnée. Et que du coup, c'était beau de voir qu'il y avait une mère qui était là et je crois que ça fait énormément de bien à ma mère, vraiment. C'était très cool et c'était cool de voir que c'était l'infirmière qui s'occupait de faire ça et qui m'a déchargée en fait du stress de ma mère et qui du coup moi m'a laissé juste vivre le truc et qui a rassuré ma mère avec des mots hyper justes. Et je pense que ça lui a fait aussi plaisir d'entendre ça d'une autre personne de qui sûrement elle s'y attendait pas en plus. Ouais.
Cœur sur toi.
Ah ouais, vraiment. Ouais, non mais vraiment, j'étais trop contente.
Et du coup, après, t'as pas eu de complications, des choses comme ça. Ça implique quand même, du coup, à préciser... Enfin, combien de temps les infirmières sont venues te changer tes pansements?
Ouais. Ouais, du coup, j'avais des soins infirmiers à domicile quotidien. Ça, encore une... Enfin, c'est des choses qui dépendent des chirs. Il y a des chirurgiens qui les prescrivent pas, il y en a qui les prescrivent.
Ah ouais?
Ouais.
Sinon, ça aurait pu être toi qui devais les changer solo et tout.
Ouais. Je crois qu'il y a des personnes qui le font, ouais. Pour le coup, ma chère prescrit des soins infirmiers quotidiens. Jusqu'à cicatrisation des tétons, moi, ça a été l'équivalent de un mois, peut-être un peu plus d'un mois. Donc c'était quand même conséquent. À la fin, j'en avais marre de devoir attendre des gens pour juste me doucher et pouvoir commencer ma journée. Mais c'était vachement bien de savoir que juste j'étais pris en charge. Et je pense que, si je l'avais fait tout seul, il y a plein de phases dans la cicatrisation que je connais pas et pour lesquelles j'aurais paniqué. Et qui, en fait, juste il y a des professionnels qui sont passés, qui me disaient si c'était OK, pas OK. Et c'était quand même vachement rassurant de voir qu'il y avait des gens qui s'occupaient de ça. Ouais.
Parce qu'après, quand t'es revenue ici... Se trouver d'autres.
Ouais, du coup, une semaine, quand, juste après l'opération, quand je suis revenue à Bordeaux, j'ai trouvé d'autres infirmières qui passaient aussi quotidiennement. Et moi, peut-être plus d'un mot au final.
Je me rappelle que tu étais super excitée la première fois où tu as pu enlever les pansements et voir genre, vraiment les trucs.
Ouais.
Parce que t'as...
Ouais.
Enfin, je veux pas dire de conneries, mais tu balisais un peu, non, je sais... Enfin, pas forcément, tu vois, de ouais. voir le résultat, de... Est-ce que ça allait te plaire et... Aussi les sensations, non, t'avais peur de...
Ouais, de ouf. Je me souviens plus exactement la première fois que j'ai vu les cicatrices, parce que je me demande si à la clinique, je les ai pas vues quand même. Oh, peut-être que j'ai pas eu le temps de les voir en détail. Mais c'est vrai que j'étais très curieuse, parce qu'en fait comme au début j'ai tout le temps des pansements sur moi et en plus le gilet compressif, en fait je vois jamais, enfin pendant un mois j'ai très peu vu ce à quoi ça ressemblait. Mmh. Et du coup bien sûr j'étais curieuse de voir la tête que ça avait et j'étais contente dès le départ, même si bien sûr c'est, au début bah, c'est réellement des cicatrices, donc c'est quelque chose qui est très à vif. Mais ça rendait bien et j'étais vachement rassurée aussi par les infirmiers et infirmières qui disaient que c'était un travail qui avait été très bien fait et qui cicatrisait très bien. Au fur et à mesure, je prenais des photos tous les jours quand on changeait les pansements pour voir comment ça évoluait, et ça a évolué hyper vite et hyper bien. Mais en même temps, ça restait... Bah, tu vois, quand on parle de sensations, au début, c'était assez compliqué de ressentir ces sensations-là parce que à la fois, il n'y a pas grand-chose, à la fois, du coup, moi, j'ai des longues cicatrices et en fait, c'est bizarre, mais c'est, comme il y a des points, c'était des cicatrices qui étaient, que je sentais beaucoup dans le sens où elles étaient dures et je les sentais... Pas lourde, mais un peu, genre je les sentais vraiment sur mon torse. Et en ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le gilet compressif, qu'on appelle boléro, c'est quelque chose qui est chiant. Mais moi, je sais que ça m'a pas mal aidée parce que, en fait, ça a masqué un peu toutes ces sensations désagréables. Et même au tout début, la vision, de voir mon torse qui était très, très, avec réellement des cicatrices, c'était pas toujours agréable. Et du coup, d'avoir ça pour masquer un peu les sensations, pour des fois juste ne pas voir le processus de cicatrisation qui était vraiment à vif. Moi, je sais que ça m'a fait du bien et ça m'a... Enfin, c'était cool d'avoir ce gilet compressif pendant un certain temps. En plus, ça procure un peu un sentiment de sécurité d'avoir quelque chose en plus qui protège par-dessus cette cicatrice. Du coup, ouais, au premier abord, les sensations pas franchement agréables. Je vais pas mentir. Genre, plutôt même carrément désagréables. Et en fait, au fur et à mesure, ça revient. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que toutes les personnes ne retrouvent pas leurs sensations après une mammecte. Ça dépend beaucoup. Il y a des personnes qui les retrouvent, il y a des personnes qui les retrouvent pas. Il y a des personnes qui retrouvent des sensations, mais elles sont pas agréables. Il y a des personnes qui avaient pas de sensations avec et qui se retrouvent avec des sensations après une mammecte. Enfin, c'est hyper variable. Et je crois que ça dépend même pas des techniques de chirurgie. Moi, je suis contente parce que j'ai retrouvé des sensations qui, pour l'instant, sont pas très agréables. Mais au moins, j'ai des sensations. C'est cool. Yes. C'est mieux que rien.
Oui, ça peut peut-être évoluer.
Ouais, je pense que c'est juste que là, c'est très sensible. Et du coup, ça a plutôt tendance à me faire mal. Mm. Mais de ce que j'ai lu, des partages que j'ai eus, c'est des choses qui peuvent s'atténuer au bout d'un an. Donc voilà.
Je suis nue devant le miroir. Mes épaules sont larges et mon corps est robuste, jeune encore. Mes yeux s'attardent sur mes hanches, sur mon ventre tendu, puis fixent ma poitrine, presque plate. Sur mon sein gauche, une cicatrice. Parce qu'elle est encore violacée, parce qu'on discerne le tissu tout juste reconstitué de la chair tiraillée. Parce que sous le doigt, son relief se détache, encore gonflé. On devine que la blessure est récente. Elle palpite, comme un nerf. Pourtant, quand le doigt passe sur la plaie, elle n'est déjà plus douloureuse. On ne meurt pas.
Et du coup, sur ce que ça a changé dans ton rapport à ton corps, déjà, peut-être, parce que c'est quand même, on lève une partie
du corps. Mon rapport à mon corps... Enfin, honnêtement, cette mammecte, vraiment, j'en ai eu envie très rapidement. Je savais que je voulais le faire, mais je pense que Là maintenant, post ma mec, je me dis, j'imaginais pas une seule seconde à quel point ça allait autant me rendre heureux, vraiment. Parce qu'en plus, j'avais pas vraiment un rapport, pas du tout en fait, un rapport compliqué à ma poitrine. C'était pas du tout une partie de mon corps que j'aimais pas. Je voulais voir ce que ça faisait sans. Et c'est trop bien, enfin, je me sens trop bien. Je pense que. Enfin, je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps. C'est très cliché, mais c'est vachement vrai. Et du coup, après, ça a changé par la suite. Ben, d'expérimenter ce truc de me sentir aussi bien, et ben, tu vois, j'avais arrêté de vouloir prendre de la testo pendant un moment, et puis du coup, c'est revenu. Genre, d'expérimenter, de se sentir bien. Je me dis, bah ok, j'ai fait un premier truc, maintenant je sais que j'ai aussi envie d'essayer la testo et de voir comment je me sentirais comme ça. Et bah, du coup, depuis, j'ai commencé la testo.
Ok.
Ouais.
Et ouais, du coup, ça change aussi des trucs dans ton. Dans ton rapport à ton genre.
Ouais, bah en fait, ça a un peu. Enfin, par rapport à mon genre, par rapport à mon orientation sexuelle aussi.
Ah ouais.
Ouais. Avant cette. Ma mec, j'étais. Très claire et carrément sûre avec le fait que j'étais non-binaire et lesbienne. Après cette mamec, je suis plus aucun des deux.
Ah ouais ?
Ouais. Ouais. Lesbienne, c'est con, hein. Enfin, c'est pas con. Je sais pas pourquoi c'est parti. Je sais pas si c'est un truc de moins me sentir légitime à me dire lesbienne depuis que j'ai plus de seins, ce qui serait très bête. Et ce que je ne dirais à absolument personne. Enfin, je dirais à personne qui allait moins légitime. Son poitrine, genre bien sûr, mais moi c'est un truc que j'ai ressenti de moins juste, en tout cas de me dire lesbienne, donc j'ai juste au fur et à mesure arrêté de le dire. Et par rapport à mon genre, pareil, je pense que je me dis pas mec pour autant, je crois, peut-être que si, non. Mais en tout cas le non-binaire sonne moins juste que ce que c'était avant. Pour l'instant, le seul mot qui sonne vraiment bien, c'est transmasque, et du coup, voilà.
Ça marche.
Voilà. Mais du coup, ouais, ça a changé. Pourquoi ? Je sais pas. On dit que. Enfin, on a tendance à répéter que l'expression de genre et le corps et l'orientation sexuelle et l'identité de genre, c'est pas lié. Certainement que des fois, c'est pas lié. Moi, je pense que ça a été lié. Mais en plus, pas forcément dans ce qu'on s'attendrait non plus, quoi, parce que, bah, par exemple, par rapport à mon expression de genre, bah, en fait, alors, par rapport à mon corps, bien sûr, ça m'a rendu plus masculin, mais par rapport à mon expression de genre, du coup, moi, ça me permet de m'exprimer de façon beaucoup plus féminine, en me sentant mieux, de porter des vêtements plus féminins, de porter des bijoux, de ce que je faisais déjà un peu avant, mais là, en me sentant beaucoup mieux avec, ma féminité. Donc je pense que c'est lié, mais pas forcément dans le sens où on s'y attendrait forcément, quoi.
Et oui, ça change du coup quelque chose à la fois dans ton ressenti de toi-même et aussi bah, du coup par rapport... Enfin, t'as senti que ça change... Toi, ta perception changeait dans le regard des autres personnes. Dans la façon, je sais pas, dans de te genrer, le passing, des choses comme ça ou...
Non, honnêtement, non.
Okay.
Non, ça n'a rien changé. J'ai eu peur. J'ai eu un moment de. Juste après ma mec, j'étais là en mode ok, j'ai besoin de voir maintenant comment les personnes me perçoivent. En fait, personne ne capte que j'ai plus de poitrine, vraiment. Je crois que. Après, j'ai dû me balader en t-shirt quand même, post ma mec, mais. Quoique, juste après ma mec. J'ai eu des petites expériences. Bah, c'était un peu à la fin de l'été, c'était encore une période où je me mettais en t-shirt, donc on voyait beaucoup plus que j'avais pas de poitrine. Là, comme c'est l'hiver, bah, au final j'ai un manteau et tout, je pourrais très bien en avoir que les personnes ne le verraient pas plus. Mais en tout cas, ouais, vraiment juste après la mamec, étonnamment, bah, pendant les quelques jours où j'étais avec ma mère, j'ai beaucoup, enfin je suis beaucoup passée pour un mec aux yeux des gens. C'était assez limpide, je me suis vue conseiller, enfin, à un moment donné, chercher les toilettes, et voilà, pas qu'un mexisme me montre du doigt les toilettes des hommes, c'est le moment le plus malaisant de ma vie, vraiment, j'étais là, ok, je suis donc dans l'antre des mecs,
ça.
Je suis bien sûr pas allée aux toilettes des mecs,
mais... Boys gang était là, ouais.
On m'a indiqué les toilettes des mecs, les pissotières, non.
Oui, du coup, bah, tu verras aussi peut-être un peu cet été et tout, comment... Tu sais, là, pour l'instant, tu te vois en mode, genre, t'as envie de montrer... Enfin, tu penses que tu seras à l'aise et tout, t'auras envie de te mettre, genre, torse nu et tout cet été.
Ouais, en vrai, carrément. En plus, c'est un peu frustrant parce que, normalement, il faut faire très attention en termes de soleil sur les cicatrices. Moi, ça fera presque un an, donc je m'étais dit peut-être que ça pourrait passer, je pourrais être full torse nu à la plage. Je sais pas si ça va être si simple que ça, mais ouais, moi, là, enfin, pas de problème, hein. Je suis vraiment en mode go torse nu à la plage. Ouais.
Ouais. Et de toute façon, dans tous les cas, ça demande un entretien continu, quoi. Genre, tu dois
prendre
de la crème et tout.
Oui, il y a des massages à faire, je mets de la crème et encore une fois, ça dépend des chires, mais moi, j'ai des séances de kiné qui m'ont été prescrites. Et du coup, je fais des exercices pour muscler mes pecs, pour mes petits pecs. pour juste essayer de détendre tout ça et d'en prendre soin et pour aider à la cicatrisation, quoi. Oui.
Ouais. Et oui, je pense ça change beaucoup par rapport au fait de ce... Par rapport à l'effet du binder, du coup.
Dans ce que ça renvoie visuellement,
ou même dans le rose, enfin, ce que ça te renvoie à toi déjà visuellement et tout.
Bah, en vrai, visuellement, oui, ça change quand même de ouf. Même s'il avait pas un gros bonnet, donc c'était facile de binder ma poitrine, mais ça change quand même entre être un peu plat et complètement plat, ça n'a rien à voir. Et puis il y a quand même un truc de sensation où, bon, un binder, ça faisait longtemps que j'avais arrêté d'en porter parce que juste ça m'abîmait le dos. Mais je masquais quand même ma poitrine et il y a quand même un truc de sensation où là je mets un t-shirt, j'ai rien en dessous, quoi. Alors que quand on se bind ou quand on met des bandes de strap et tout, il y a quand même une sensation sur la peau qui est que on a quelque chose qui est en train de nous compresser la poitrine. Donc ouais, c'est carrément différent.
Je sais pas, et d'autres trucs dont tu avais envie de parler qui... Parce que ça... a changé en toi ou le regard que tu portes maintenant par rapport à toute cette expérience.
En vrai, ouais, ce que ça a changé en moi, enfin, c'est pas très approfondi, mais encore une fois, un truc de bien-être vraiment, enfin, conséquent, genre vraiment de me sentir vraiment bien et juste de... Enfin, ce truc de d'avoir plaisir de se voir dans le miroir. Encore une fois, c'est trop cliché pour une personne trans, mais juste, c'est vrai. Genre, vraiment, juste de se sentir bien avec ce qu'on renvoie. Et qui, encore une fois, moi, me laisse grave de liberté et de possibilité d'expérimenter d'autres choses. Parce qu'il y a ça paraît contradictoire de, du coup, aller vers plus de féminité. Mais en fait, c'est un peu... dans le sens où je préfère être vue comme un mec féminin que comme une meuf masculine, en fait. Et du coup, le fait de plus passer comme un mec, ça me permet, moi, de beaucoup plus accepter ma part de féminité que j'adore, en plus. Je sais pas, avec du recul de... Enfin, en même temps, recul, pas non plus un très grand recul, parce que je suis qu'à 5 mois post-op, mais je sais pas. Je pense que c'est... En vrai, je suis... contente, enfin je suis vraiment fière de l'avoir fait dans le sens où c'est encore une fois pas rien et c'est pas rien de dans sa vie décider de faire ça et de s'écouter à ce point de surtout quand c'est pas quelque chose qui est encouragé tout court donc ouais, un truc de fierté d'avoir su à un moment donné m'écouter même si ça paraît énormissime pour plein de personnes et ouais un truc qui pousse à aller vers juste ce qu'on veut faire et juste juste écouter, juste aller vers ce qui nous procure du bonheur en fait, quel que soit ce que c'est, ouais.
Et t'as l'impression que les gens autour de toi, enfin, captaient quand même ou pas, et genre étaient là et tout, enfin, c'est un peu compliqué parce que je suis là aussi, mais genre mais je sais que en tout cas moi de mon point de vue extérieur j'ai capté à quel point je captais pas, tu vois, genre...
Tu captais pas ce qui allait se passer?
Si, mais genre à quel point je pouvais pas imaginer, enfin,
ouais.
Et plus ça allait, et tu vois, enfin, quand on t'a retrouvé et tout et que tu en parlais et que tu disais mais genre c'est pas rien et tout. Et je t'envoie genre, au début, en mode, bah oui, c'est une grosse opération et tout.
Ouais.
Mais en fait, aussi parce que je pense que c'est un peu la perception que... Enfin, j'ai pas vu beaucoup de personnes en post-opération de manière générale conséquente, tu vois. Enfin, si genre ma mère et tout dans des trucs, mais... Mais en tout cas, pas forcément, pas dans mes amis. Et du coup, à avoir genre, ouais, des questions sur en fait c'est quoi la bonne place pour accompagner un ami là-dedans et tout. Et je pense que j'étais pas la seule personne autour de toi qui captait pas, enfin qui... Enfin, forcément, c'était aussi une situation nouvelle parce que t'étais aussi la première personne de notre groupe à vraiment faire ça. Parce que même s'il y a déjà des personnes qui l'avaient fait, mais qu'on n'a pas vraiment, en tout cas, c'était la première fois que j'accompagnais quelqu'un dans ce processus-là. Et je sais pas si du coup, il y a des trucs que tu penses, ce serait bien de retenir pour d'autres personnes. Potentiellement qui est autour de nous qui pourrait faire ça et pour les accompagner peut-être encore mieux ou être plus là ou genre des choses qui toi t'ont fait du bien ou qui t'ont pas fait du bien, on sait rien.
Ouais. Bah en vrai, je comprends ce que tu veux dire dans le truc de pas capter. Forcément, je pense que. Après, ça va que j'étais entourée de personnes qui l'avaient vécu aussi et du coup, qui elles pour le coup captaient totalement ce qui était en train de se passer. Et avec qui, du coup, je pouvais formuler des réflexions que ces personnes comprenaient vraiment de A à Z. Donc c'est, vraiment, comme il y a eu ces personnes, ça m'a donné la possibilité de partager encore une fois ces réflexions. Après, même pour les personnes qui n'avaient pas vécu ça, franchement, je ne me suis jamais sentie dans un truc où, OK, les personnes ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. En tout cas, pendant toute la phase de préparation, le pré-mamec, je me suis jamais dit mais les gens sont à milieu de ce que je suis en train de vivre. Je pense que factuellement c'était le cas, mais je me le suis jamais dit en mode c'est négatif. En fait, j'étais en train de le vivre, mais c'était un truc que je pouvais vivre que seul de toute façon et que moi seul je pouvais ressentir dans toute sa complexité. Et en plus, j'ai toujours eu la place de pouvoir en parler à chaque fois que j'avais des peurs, des craintes ou de la joie. C'était des trucs que je pouvais partager, donc ça, c'était trop cool. Avec toi comme avec n'importe qui, même si c'était des personnes qui n'avaient pas vécu ça, je savais que je pouvais en discuter autant de fois que je voulais. Donc, s'il y a un truc à conseiller, c'est ça, genre juste de... dans un truc aussi gros, peut-être que... moi, je sais que je pouvais avoir besoin d'en parler beaucoup. Et du coup, d'avoir la sensation de toujours pouvoir être écoutée, c'est vraiment cool à ressentir. J'avais aussi grave la sensation d'être accompagnée, vu que j'ai les trois personnes qui me sont le plus proches, qui m'ont accompagnée, et en plus de ma mère et de mon frère qui étaient là aussi au début, qui m'ont accompagnée pour cette opération, littéralement. Donc en fait, les 5 personnes qui sont les plus proches, à peu près. Il y en a d'autres. Bref, en tout cas, j'étais accompagnée. Donc ça aussi, c'est vraiment cool s'il y a la possibilité d'être accompagnée de personnes, ce qui quand même délègue aussi la charge, tout simplement, des choses qu'il y a à s'occuper. Toujours dans le avant, du coup, il y avait ma maman dans l'aventure. Ma maman qui a hyper bien réagi dès le départ. En plus, j'ai un peu tendance à, pour les trucs dont j'ai peur d'annoncer, à juste... drop ça dans des SMS et la laisser dealer avec ça. Et du coup, vraiment, je lui ai parlé de ça par SMS, quoi. C'est par peur, hein, mais je comprends que ça puisse être compliqué. Et elle a direct répondu et hyper bien répondu en mode je te fais confiance, si tu y penses, je sais que c'est pas pour rien, tout ça. Enfin, vraiment un cœur, elle m'a accompagnée et tout. Elle a pas toujours compris et des fois, elle a eu besoin de poser des questions, mais. J'ai jamais vraiment ressenti le fait qu'elle me freinait là-dedans, même si je pense qu'elle a eu peur. Le truc qui a été compliqué, c'est du coup, on y est allé ensemble. Juste avant l'opération, on était ensemble. Et en fait, elle était très, très stressée. Et du coup, elle me communiquait beaucoup son stress. Et j'avoue que ça a été compliqué à gérer parce qu'en fait, juste elle avait peur que je regrette, peur que ça se passe mal, peur que ça rentre pas comme, comme je voudrais, enfin ouais, juste peur que je regrette en fait, et vraiment ça l'a stressée énormément, et elle m'en parlait beaucoup, et du coup, moi qui étais partie dans un mood très euphorique, je me suis confrontée au fait que en fait c'était un événement stressant. Du coup, dans le train du voyage, je me suis retrouvée à être en pleurs, à au final stressée. Et du coup, je lui ai dit, et c'est ce que je dirais à un parent, je comprends que ce soit hyper stressant, vraiment c'est normal. Juste là, je lui ai dit, c'est pas le moment pour moi d'entendre ça. Je comprends que tu sois stressée, mais en fait, moi aussi, je le suis. Et si je suis dans ce train, c'est pas pour rien, c'est que je veux le faire. Et du coup, il faut que j'entende autre chose que du stress, en fait. Et c'est quelque chose qu'elle a tout de suite compris, et du coup, ça s'est beaucoup mieux passé après. Et du coup, ouais, un soutien positif, c'est hyper important de qui que ce soit. Enfin, le stress, la remise en question de l'acte, vraiment, ne vous faites pas de soucis, ça passe dans nos têtes en permanence. Et du coup, de pouvoir avoir un soutien extérieur qui est positif et qui nous fait confiance, c'est vraiment ce qu'il faut, parce que vraiment, cette remise en question, on la reçoit de partout, on la cogite tout le temps, et du coup, c'est pas ce dont on a besoin de la part des personnes extérieures, en fait. Et en plus, si on n'est pas prêt et si on a peur, on le dira par nous-mêmes, en fait. On n'a pas besoin que ce soit quelque chose qui nous soit rappelé par d'autres personnes et qui, en plus, juste retranscrit leur peur à elles et pas la nôtre, en fait.
Exactement. Pardon. Alors que c'est pas, genre...
Non, mais oui.
Parce que j'étais à fond dans le truc, alors qu'en vrai, c'est pas mon truc, mais genre, oui... Je capte, enfin, c'est comme. Enfin, je veux dire exactement pour n'importe quel truc de toute façon qui touche à. Enfin, à flipper pour quelque chose que quelqu'un fait sur soi-même, c'est genre pas. Enfin, c'est. Effectivement, c'est une peur qui.
Ouais, c'était juste sa peur à elle, ouais. Mais du coup, elle a hyper vite compris, donc ça, c'était. Enfin, vraiment, ma mère était un cœur vraiment pendant toute cette aventure. Elle a été trop, trop bien, trop bienveillante. Le après et tout aussi, c'était cool. Et après, du coup, juste pour finir sur ce truc de prise de conscience, le post-mamec, vraiment, je pense que le plus gros, c'est la première semaine, voire les deux premières semaines. Et j'avoue que, en fait, c'est un peu ressentir ce truc de... Effectivement, peut-être que les personnes ne captent pas à quel point j'ai deux énormes cicatrices sur le corps et que mon corps est en train de cicatriser des... Enfin, littéralement en train de faire un travail de ouf, en fait. Et d'être dans un truc de très vulnérable, encore une fois, d'avoir des cicatrices qui affaiblit beaucoup. Et je comprenais qu'il y avait, avec vous comme avec ma mère, une envie de faire des choses au quotidien que moi, je ne pouvais juste pas faire parce que mon corps n'était pas du tout en état de faire ça. Je pouvais pas... Mon corps lui-même ne pouvait pas le faire. Et moi-même, dans mon état d'esprit, en me sentant si vulnérable avec tous mes pansements et mes cicatrices et tout, je pouvais pas être dans le mood de faire certaines choses.
Ça, ouais, je me rappelle que tu nous l'avais dit et ça avait fait... Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a ce truc de. Quand on ne pouvait pas, et que toi-même, anticiper de genre, en fait, comprendre à quel point. Enfin, en fait, la mamec, elle ne s'arrête pas à l'opération. Genre, ouais. Il y a vraiment genre, toute la phase après, et qui est très fatigante et tout. Et que même si on apparente, genre, ça, et c'est un truc cool, et que ça va et tout, en fait, ouais, ton corps, il était en train de faire un méga effort, et que tu étais vraiment fatiguée. Et comme c'est, enfin peut-être genre, je pense que c'est aussi des a priori de genre comme, genre tu sais genre un peu l'idée que genre, vu que c'est pas vraiment, enfin que c'était pas un truc médical, enfin tu vois peut-être quand tu te dis genre j'accompagne quelqu'un qui fait un gros truc pour une maladie ou un truc, bah tu te dis qu'il y a ce truc de récupération qui est déjà prévu dans la tête et que là beaucoup moins, et après genre franchement j'ai jamais, même enfin eu des personnes autour de moi qui faisaient par exemple des chirurgies esthétiques, alors que c'est de tout type, tu vois, autre que genre mammectomie, mais du coup c'est un peu le même truc, de toute façon ça prend du temps parce que genre le corps il a besoin de renouveler renouveler l'énergie, les cellules et tout, et ça vraiment on a, enfin je me rappelle avoir capté à ce moment là qu'on n'avait pas capté à quel point effectivement t'étais genre, enfin ouais il fallait du temps et capter ça, et ça c'est, je pense c'est important aussi peut-être de, enfin c'est ce que je dirais à d'autres personnes qui accompagneraient d'autres personnes, de genre en fait ouais c'est pas laisser du temps aussi, enfin genre c'est, ça s'arrête pas juste à l'opération, hein, genre c'est la teuf quoi, genre il y a
puis en plus il y a ce truc du coup positif qui vient biaiser les choses aussi, comme c'est quelque chose de positif qui arrive, ben du coup on a envie pas de le célébrer, mais un peu quand même, quoi. Mais je pense que honnêtement, enfin, pour. Enfin, je pense que moi-même, je captais pas à quel point mon corps avait besoin de se reposer. Parce que, enfin, en vrai, pour être clair, la seule chose qui s'est passée, c'est juste qu'on a voulu faire, enfin, partager un moment avec des amis et dans la ville, et que juste mon corps n'a juste littéralement pas pu. Enfin, j'ai fait des quasi-malaises sur quasi-malaises parce qu'il y avait énormément d'émotionnel qui se passait. Tout le monde était trop heureux de se voir, tout le monde était trop heureux pour moi. Mais juste, je pense qu'il y a eu un flot d'informations à gérer, déjà de voir des personnes, de gérer les émotions. En plus, on était dans la ville. Je pense que à la fois vous avez pris conscience à ce moment-là que c'était pas simple, et même moi, hein, je pense. Enfin, si je me suis pointée à ce truc qu'on voulait juste boire un verre tous ensemble, c'est que je pensais que j'en étais capable, et en fait j'ai pris conscience que pas du tout, en fait. Enfin.
Ouais. Ouais, carrément.
Donc ouais, prendre le temps et faire les choses petit à petit.
Et par rapport à ta maman, elle avait des ressources et des trucs, elle est allée voir, elle a eu des... Ou elle a échangé avec... Enfin, elle a regardé aussi des témoignages de personnes qui avaient fait des mamecs et tout, ou... Enfin, pour essayer de pouvoir mieux comprendre et se rassurer elle-même et t'accompagner au mieux, ou...
Je sais pas factuellement ce qu'elle a fait, mais je sais que ma mère est dans une asso de parents de personnes LGBT et de personnes LGBT elles-mêmes. Donc je sais qu'elle est très entourée par des personnes, soit qui sont liées à des personnes qui ont ce vécu, soit à des personnes qui ont ce vécu tout court. Donc je pense très fortement qu'elle a dû en parler, avoir des partages sur tout ça. Mais dans les faits, je sais pas exactement ce qu'elle a fait.
Ok. Je sais pas si t'as autre chose que tu souhaites dire ou des conseils en plus aux personnes qui réfléchiraient à la mamec.
En vrai, le seul conseil que je peux donner, c'est de pas hésiter à en parler avec des gens qui sont concernés. Soit qui sont passés par la mamec tout court, soit qui sont passés par le ou la potentielle chir, ce qui m'est arrivé à moi. Donc j'ai un ami qui m'a beaucoup accompagnée, ça m'a fait énormément de bien, et j'avais tout le temps peur de le déranger, à lui poser des questions et tout, mais en fait je pense très sincèrement, et il me l'a souvent dit, et je pense que c'est vrai, ça n'a jamais été le cas, je ne l'ai jamais dérangé, il l'a toujours fait avec plaisir. Moi, ça m'a énormément aidé de pouvoir avoir des réponses de personnes qui avaient vécu ça, et je pense que c'est des choses qui se transmettent. Enfin, moi, à l'heure actuelle, après avoir été si bien accompagnée, je suis vraiment en mode, mais posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vous réponds avec plaisir. Donc enfin, vraiment, ne pas du tout hésiter à en parler aux personnes qui sont passées par là. Enfin, en tout cas, si ces personnes vous disent « je suis d'accord pour en parler », c'est sincère, et je pense que c'est bien de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Ouais.
Mmh. Mais c'est jamais le même travail, genre de... C'est pas comme le truc qu'on dit épuisant, effectivement, de faire de la pédagogie quand les personnes sont pas concernées, mais entre personnes... d'une même communauté, genre, c'est important, ce soutien et cette transmission, justement.
Ouais.
Je pense qu'effectivement, ça donne pas le même...
Ouais, vraiment.
Bah, en tout cas, merci.
Merci à toi.
Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Au bord des corps.